ce samedi sur France Inter à partir de 17h30. France Inter, la voix est libre.
Et c'est l'heure de Daniel Mermet pour la basse. Si, j'y suis. Allez hop, c'est parti.
On est autour du Maracana, avant le match Chili-Espagne, au milieu des supporters. Là, il y en a un qui arrive avec son chapeau multicolore. Tous un peu pareil, hein. C'est une fantaisie homogène. C'est de la fantaisie standard chez les supporters. Et là, il y a un autre gars qui est assez marrant aussi, qui est un solitaire, qui tend ses tracts. C'est un médecin. Il est médecin dans un hôpital. Et il essaye d'attirer l'attention sur la situation de la médecine et l'état de vétusté des hôpitaux, mais il précise bien sur son t-shirt qu'il est supporter lui-même. Il supporte, il soutient l'équipe nationale et il proteste. Parce que c'est présenté comme deux choses qui ne vont pas ensemble. Il faudrait choisir le foot ou la contestation. Bah, lui, il fait les deux.
Et je proteste pelas condições dos hospitais públicos.
Je suis médecin, je proteste contre les conditions des hôpitaux publics au Brésil.
Mais ce qui est intéressant, c'est quand même son t-shirt qui a marché. Je soutiens torso, mais protesto.
Voilà. On peut supporter l'équipe du Brésil.
Supporter et en même temps contestataire, et en même temps manifestant.
Isso, ao mesmo tempo. Protestar e torcer ao mesmo tempo.
Et c'est ça, en même temps, on peut être supporter et être manifestant.
Bonjour à tous, c'est Olivier de San Francisco, donc c'est la Coupe du Monde de foot. Je constate qu'il y a plein de gens que ça intéresse. Moi c'est bizarre, le sport à la télé c'est comme les films de cul. Quand c'est pas moi qui joue, ça m'emmerde. Voilà, salut à tous.
Quand j'entendais hier matin un auditeur jalouser les acquiches des cheminots, je pensais à cette histoire que je vous ai déjà racontée. Deux souris se disputent parce qu'elles ont chacun un morceau de fromage, mais l'un est plus gros que l'autre. Le renard passe par là et leur dit « Oh, mais je vais vous arranger ça !» Et il croque dans le morceau le plus gros. Mais tant qu'il devient plus petit que l'autre, la souris n'est pas contente et le renard croque dans l'autre morceau. Les voilà devenus tout petits, mais égaux. Et les souris sont bien contentes. Sommes-nous des souris ? Au revoir.
Alors, rassurez-vous, il n'y a pas qu'en France que les cheminots font la grève. Il semblerait apparemment qu'en Suède, depuis au moins une semaine, les cheminots suédois sont également en grève avec les contrôleurs contre la privatisation, effectivement, de certains contrats. Et notamment, un opérateur qui se situe en tête, à savoir Veolia, qui veut reprendre certains contrats à son compte et renégocier à la baisse. Donc, ouvrons l'œil et visiblement, les cheminots se diffusent et réfléchissent.
Bonjour. Les États-Unis veulent poursuivre en justice la banque BNP Paribas. C'est très intéressant. C'est très très intéressant. Parce que ça veut dire qu'il est possible qu'un État poursuive une banque en justice parce qu'elle a fait quelque chose de considéré d'illégal ou de pas bien. Quelque chose qui a fait du tort. Donc, si les États-Unis réclament 10 milliards à la BNP pour avoir travaillé avec l'Iran, combien est-ce que tous les pays du monde, victimes de la crise des subprimes, pourraient demander aux banques américaines responsables ? Au revoir, c'est Franck Danière.
Salut à toute l'équipe, c'est Pierre de Rennes. Moi, je répluche les archives en ce moment-là, je profite de mon temps perdu au travail pour éplucher ça. Et puis je tombe sur les émissions qui ont une dizaine d'années, sur le mouvement des sans-terre au Brésil, bah, forcément Coupe du Monde oblige. Et il y a un porte-parole que vous rencontrez à l'époque, à un moment il dit, le jour où nous ferons la révolution au Brésil, ce sera en même temps qu'un match de foot, et avec un bal de carnaval. Ça paraît prophétique. Alors moi ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'ils en pensent aujourd'hui les sans-terre, et comme vous êtes sur place, ce serait peut-être pas mal d'aller les voir, si c'est pas déjà prévu. Et puis, j'ai envie de dire fort à FIFA, et puis la lutte continue. Salut.
Eh bien, ça tombe bien, c'est extraordinaire le message que vous avez laissé, parce que c'est exactement notre sujet du jour, le MST, le mouvement des sans-terre, le fameux mouvement paysan brésilien. Le sujet qui nous intéresse ici, c'est la confrontation entre la Coupe du Monde et le mouvement social, entre le mondial et le social. La question que tout le monde se pose ici, c'est est-ce que la Coupe du Monde va réussir à occulter, effacer, faire disparaître ce mouvement social? Hier, au Maracana,
dans le grand stade de Rio, on a vu un impressionnant déploiement de forces policières et militaires autour des supporters. Alors on s'est dit, que dit le mouvement des sans-terre, que fait le mouvement des sans-terre dans toute cette histoire? Pour ça, il faut comprendre ce qu'est ce mouvement, et pour ça, on va revenir en arrière, en 2001, où nous avions consacré une série de reportages à ce mouvement. Il faut rappeler que depuis la conquête, la question de la réforme agraire se pose d'une manière très vive, essentielle au Brésil. 1% des propriétaires terriens possèdent environ 50% des terres cultivables, et c'est contre cette injustice que lutte depuis de nombreuses années le mouvement des sans-terre. Ils vont parler de leur bilan. 300 000 familles ont été rétablies dans des terres conquises, ils ont construit des écoles, ils ont fait un tas de choses, mais où en sont-ils aujourd'hui? Que disent-ils aujourd'hui dans la presse conservatrice néolibérale? On les appelle les terroristes, on les appelle les talibans du Brésil. Bref, aujourd'hui, le mouvement des sans-terre. D'abord, retour dans l'état du Pará en 2001, puis aujourd'hui à Rio avec les porte-parole de ce mouvement paysan. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, le prochain café repère du Conflans dans les Pyrénées-Orientales aura lieu comme tous les troisièmes jeudis du mois, ce jeudi 19 juin. Mais attention, nous changeons de quartier et nous serons à Fillols à 19h30 sur la place du village au café du Canigou avec deux eaux chez Pauline et Émilie. Nous avons invité des gens d'Enercop et Conflans Énergie pour connaître le rôle exact que jouent ces coopératives nationales et locales dans la production des énergies renouvelables. Toutes les questions seront les bienvenues et le débat très attendu. À bientôt.
Bonjour. Dans ces temps où différentes voix de résistance se font entendre, les psychologues portent aussi la leur. Nous serons en grève ce jeudi 19 juin pour la défense de l'humain, du vivre correctement ensemble et contre les folies normatives contemporaines dont on voudrait nous commander. Il y aurait beaucoup à dire des conditions d'un exercice toujours très attaqué et de la précarité d'un grand nombre d'entre nous, mais on ne va pas vous assommer tout de suite et garder ces sujets épicés. Peut-être pour une autre fois, une émission. Alors courage à chacune, à chacun, en souhaitant dynamisme, invention et chaleur à la possibilité d'unir nos forces.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG. La grève des intermittents empêche l'ouverture du Festival de Marseille. Ce soir à 19h30, au restaurant Le Borsalino, 3 boulevard Jean Jaurès, le repère d'Aubagne reçoit Olivier Boistel du journal régional Leur Avis pour débattre de Marseille-Provence 2013, ville européenne de la culture, et comment le bénévolat business a pris la place des intermittents du spectacle. À ce soir pour partager et faire entendre vos idées. Salut!
No dia que fizermos a revolução no Brasil.
Le jour où nous ferons la révolution au Brésil.
Será conjuntamente com uma partida de futebol.
Ce sera en même temps qu'un match de foot.
E um baile de carnaval.
E avec un bal de carnaval.
Passa pra lá, vaca velha! Ui, bicha tem gorda! Vai lá! Ai, ai, ai!
Criança e adolescente tem direito de viver. Desde antes de nascer.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanti. Là-bas, si j'y suis, avec le mouvement des sans-terre en Amazonie.
Flight number 2. Arriving from New York.
campements comme ça, d'après toi, d'occupations comme ça au Brésil au total, des centaines?
Ils ont en ce moment 250 000 familles qui campent. C'était les chiffres qu'ils nous ont donné.
250 000 familles qui campent comme ça, si on compte...
Ici, ils en ont 400.
Si on compte 4 personnes par famille, qui est un minimum, ça fait 1 million.
C'est ça, 1 million de sans-terres qui en ce moment campent sur les bords de route ou les fazendas au Brésil.
On rentre dans la forêt. On rentre dans la forêt, il y a des gens qui sont réunis là, sous des grands arbres.
Oui.
Tu m'en dis bonjour.
Notre camarade qui est en train d'organiser la réunion avec le cahier et le stylo.
Bonjour, camarade. Nous avons ici la satisfaction de recevoir une comitiva, deux journalistes français, le Daniel et le Guiva. É metade francês e metade iraniano. E também está com eles a companheira Maria. Ela é portuguesa e ela faz...
C'est beau, hein? C'est très très beau. C'est vraiment un tableau du douanier Rousseau. Où nous nous trouvons au sud de Marabat, cette ville du sud du Pará, état d'Amazonie, au nord, on va dire, du Brésil. C'est beau comme ça. Quand on s'approche de plus près, quand on met le nez dessus, entre les hauts cocotiers, les bananiers, les manguiers, et tout ce vert, et tout ce vert, et tout ce vert, c'est un peu différent. C'est un peu différent, mais c'est passionnant. Le campement du 26 mars, voilà où nous sommes, voilà où on va se balader aujourd'hui avec ces paysans sans terre. Tierra Libertad, terre et liberté. Pour nous, terre et liberté, c'est devenu des mots évidents, allant de soi, naturels. On a oublié le sang qu'il a fallu, les vies entières, les nuits, les chansons, les poings fermés et les yeux ouverts pour arracher un peu de terre. Pas pour vendre, pas pour construire, pas pour spéculer, mais pour manger la terre. Pour manger, on a oublié, et eux, non, des millions encore sur cette terre n'ont pas de terre. Nu-pieds, sans chemise, ils espèrent encore la terre promise. Au Brésil, ils sont des millions, qui n'ont pas de droit à cette terre. Les fazenderos, les grands propriétaires terriens, se partagent l'essentiel des ressources du pays en terre arable, mais aussi en terre improductive. Depuis 1985, existe au Brésil, à la suite d'autres mouvements, un mouvement qui s'appelle le mouvement des sans-terres et qui lutte pour permettre à ces paysans sans-terres d'obtenir un lopin. Et ça marche, puisque 250 000, vous entendez bien, 250 000 familles sont aujourd'hui installées. C'est-à-dire que pression a été faite sur le gouvernement pour négocier avec les propriétaires. Mais ce n'est pas seulement une histoire locale, un retard qu'il s'agirait de combler en matière de réforme agraire. Il y a un souffle politique beaucoup plus large dans ce mouvement, sans doute l'un des plus efficaces d'Amérique latine et l'un des phénomènes sociopolitiques les plus forts aujourd'hui. C'est pas du papier, c'est pas du discours dans les pages Idées ou Horizon, c'est pas de la pétition, c'est un vrai travail avec des vrais gens. C'est long, c'est patient, on les a suivis et on va passer cette heure avec eux.
Para morar, saúde e educação, disso eu não abro mão, pois sou um cidadão e vou falar, Criança e adolescente têm direito de viver desde antes de nascer. Criança e adolescente têm direito de viver desde antes de nascer.
Là, c'est un poste de garde, là où on est.
C'est un doux campement.
Oui, c'est une baraque de sécurité de campement.
Nous sont 13 qui sont fonctionnant.
En ce moment, il n'y en a que 3 qui fonctionnent.
Non, les époques de meilleure tension sont 14.
Mais au moment où il y a des tensions fortes, il y en a 14 qui fonctionnent.
Ah, il y a eu des agressions déjà, il a fallu se protéger.
Il y a eu beaucoup d'amenaces et... Muitas vezes foram vistas pessoas armadas ao redor do acampamento.
On a eu beaucoup de menaces et on voit des gens armés autour du campement.
Vous êtes armé vous-même? Les gardes sont armés?
Bon, tem algumas armas para caça, né?
Nous avons seulement certaines armes pour la chasse.
Ah, mais qui peuvent servir éventuellement pour se défendre.
Foices, enxadas,
on a surtout
machades,
des outils de travail.
Chamadas por fora, né?
On a quelques, fusils qu'il faut charger par le canon à chaque fois, mais sinon c'est surtout des instruments de travail, des faux, des machettes, des bêches.
Mais il y a déjà eu des accrochages?
Só a polícia ameaçou de entrar e os pistoleiros vieram até a entrada aqui.
Les flics nous ont menacé d'entrer et les pistoleros sont arrivés jusqu'à l'entrée ici de ce côté. Et de l'autre côté aussi, les pistoleros sont arrivés.
Ah ouais,
mais
ouais.
Surtout, ils ont attaqué des gens sur la route.
Ils ont pegaram as pessoas e bateram muito.
Ils ont pris, ils ont rapté des gens sur la route, ils ont séquestré des gens. Ils les ont beaucoup cognés dessus avec des éperons et avec les fouets qu'on utilise pour les chevaux.
Des éperons, ça veut dire qu'ils sont à cheval?
Si, ils andent sempre. À cavalo para guardar as cercas da fazenda.
Oui, les pistoleros sont toujours à cheval pour garder les
propriétés.
Les propriétés, les fazendas.
Les vaqueiros,
on les appelle nous les vachers.
Comme les cowboys, quoi.
Alguns muito violentes.
Certains sont très violents.
Sont très violents. Ouais. Et donc c'est pas facile pour les familles de rester. Au début, cette occupation a été faite par 1200 familles, on compte en famille dans le mouvement des sans terre. Combien ça fait de personnes, une famille, ça peut être 4, ça peut être 6, on ne sait pas très bien. On compte par famille. Donc il y avait, mettons 4, ça fait 5000 personnes qui se sont précipitées le 26 mars pour s'installer. Mais voyez la pression, le climat, il y a des moustiques, c'est pas facile, il faut travailler, il faut gratter la terre pour arriver à faire pousser quelque chose, d'abord pour manger, ensuite pour vendre, etc. Si bien qu'au départ, il y avait 1200 familles, ils ont été virés une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois, c'est d'un entêtement formidable dont ils font preuve. Aujourd'hui, combien reste-t-il de familles?
Na verdade, são 800 que foram embora, porque tem 400, né?
En réalité, il y en a 800 qui sont partis, puisque maintenant, on n'en a plus que 400.
Voltaram para as periferias das cidades, foram procurar emprego
vivre
em outros
dans les banlieues de la ville,
fazendas,
sont partis chercher du travail
em outros lugares,
dans d'autres petites villes. Elles sont parties faire de la recherche d'or,
foram buscar uma forma de viver.
Elles ont recherché une nouvelle forme de
vie. Bien sûr, bien sûr. C'est pas facile de s'accrocher ici, quand même.
Non, tem que ter muita resistência.
On a besoin de beaucoup de résistance, les difficultés sont très grandes.
Fome,
on a la
doenças.
Faim, la maladie.
Résistance et organisation, c'est pas le tout d'occuper, il faut vivre, c'est des familles, des femmes, des enfants. Il y a une scolarité, vous allez voir, immédiatement un campement comme ça installé, eh bien, on fait l'école tout de suite, et puis on s'organise en famille, on s'organise en groupe. Il y a un projet de resocialisation pour le mouvement des sans-terre. Ce n'est pas seulement une ONG à laquelle on donne un peu de pognon comme ça de temps en temps pour se libérer la conscience et s'assurer un certain confort moral. C'est un vrai travail en profondeur, un travail social et un travail politique.
Nous sommes ici à réunion du groupe du campement.
Ici, nous sommes en réunion du groupe du campement. C'est la réunion du groupe d'organisation du campement, de la coordination pour l'organisation du campement.
Aqui nós estamos discutindo como é que nós pode résoudre nos problèmes ici dans le campement.
Ici, nous discutons tous les jours des problèmes quotidiens et de comment nous pouvons résoudre nos problèmes quotidiens au niveau du campement.
L'alimentation,
cesta base, les paniers repas,
le foment, nada disso
la cueillette, les financements du gouvernement auxquels nous avons droit et que nous ne touchons pas. La désappropriation de la terre par l'INCRA.
Et tout le monde vient là tous les matins?
Non, nous avons des jours consignés, quarta et sábado.
Pas tous les jours, c'est le mercredi et le samedi.
Les coordinateurs se réunissent ici
pour discuter. Les coordinateurs des noyaux se réunissent ici pour discuter. Et l'après-midi, chaque coordinateur de chaque noyau se réunit avec son noyau.
Et explique les décisions qui ont été prises ici.
C'est ça.
D'accord.
Il y a 54 noyaux ici, dans ce campement.
C'est très structuré, hein?
Oui.
D'accord, d'accord. Et chacun vient avec son cahier, sous le bras.
Même si on est très structuré et très organisé, ça ne marche pas toujours.
Ah oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a des bébés qui s'appellent 26 mars, non?
Non, mais il y a des petites filles qui s'appellent Victoire.
Gandara,
c'est notre cri, notre mot d'ordre.
Gandara.
Alors il y a des garçons qui s'appellent Gandara.
Zumbi dos Palmares.
C'était à l'époque de Zumbi dos Palmares.
Dos Quilombos.
C'est bon. un cri de ralliement des Quilombos.
Hein?
Est-ce que vous voulez entendre et enregistrer leurs mots d'ordre, leurs cris?
Ah oui.
Au final de toute réunion,
à la fin de chaque réunion, on lance toujours notre mot d'ordre.
Bora cantar o
hino. Reforma agrária. Reforma agrária. Reforma agrária.
Obrigado.
Para amor, saúde e educação, disso eu não abro mão, pois sou um cidadão e vou falar. Criança e adolescente têm direito de viver. Desde antes de nascer, criança e adolescente.
Campement du 26 mars à la sortie de la ville de Maraba dans le Pará, dans le sud du Pará, le sud-est du Pará, une zone particulièrement dure de la part des fazenderos, ces grands propriétaires qui se défendent d'une manière tout à fait barbare. Vous savez que dans cette lutte menée par les paysans sans terre, plus de 2000 militants ou paysans sans terre ont été tués depuis 1964 par les tueurs à gages engagés par les propriétaires terriens. Un esprit totalement féodal continue de régner dans ces régions. Corruption, parce que ces gens ne sont pas seulement des propriétaires terriens, mais ils ont une influence sur la vie politique, entre guillemets, de la région. Et puis, leur puissance économique ne se limite pas généralement à la terre seule. Et c'est donc dans un tout petit morceau, tout petit espace comme ça, que ces familles qui sont autour de nous campent depuis 1999. C'est une occupation qui se fait de manière très spectaculaire. Au petit matin, 1000 familles parfois débarquent avec fourches, faux drapeaux rouges, s'installent très rapidement, et puis on essaye de tenir dans l'espoir d'avoir un jour cette terre promise. Mais on s'organise, mais il y a tout un rythme de vie, un esprit, une organisation, des valeurs, une éducation et une façon. Par exemple, l'alcool est interdit dans ces campements, ce qui n'est pas forcément au goût de tout le monde. Alors il y a des familles qui s'en vont pour ça, et puis d'autres qui ne tiennent pas, et puis il y a des problèmes de revenus, puis il y a des problèmes de conflits, toutes choses que les organisateurs, que les militants des sans-terres ne cachent pas. Alors voilà, on est dans ce campement et on se balade.
Vladimir,
boa tarde.
Que tá...
Lui, c'est le commerçant, c'est l'épicier.
Ah, mais oui, mais alors là, il y a absolument tout.
Valdemir,
l'épicier, mais il a absolument tout. Il a des chaînes de vélo, il a des lampadaires, il a des boîtes de sardines, il a le drapeau, évidemment, du MST, il a des bonbons, il a tout, il a absolument tout.
Le supermarché ici n'appartient pas à Valdemir. C'est une coordination du campement qui coordonne ce qui doit rentrer et ce dont les familles ont besoin.
Pourquoi tu es venu à un campement? Pourquoi tu les as rejoints ici?
J'ai un rêve de conseguir un pedaço de terre pour travailler. Et l'unique appel pour gente qui est fraco de condition, l'unique appel est ce pour gente.
Parce que j'avais un rêve, j'ai le rêve de pouvoir obtenir une terre, une petite terre, et pour réaliser ce rêve, j'ai décidé de venir ici et de rentrer dans le campement.
Et qu'est-ce que tu faisais avant?
Je travaillais la terre de mon oncle.
Et pourquoi tu n'es pas allé travailler dans une fazenda?
Parce que, quand tu es travaillant ainsi, empregado, a gente está preso, assim.
Parce que lorsqu'on travaille pour quelqu'un en tant qu'employé, on est prisonnier.
Tu dis qu'on est prisonnier, toi tu considères qu'on est prisonnier?
Preso assim, porque a gente trabalhando empregado, mesmo que tá assim, eu digo assim, mesmo que tá assim, preso.
On n'est pas prisonnier de fait, mais travailler en tant qu'employé dans la terre des autres, c'est comme si on était prisonnier.
Ouais. Comment ça se passe ici, la vie dans le campement? Là, on a l'impression, on nous dit que ça se passe toujours bien, que c'est le paradis.
Às vezes, a gente quer sair assim para fora para trabalhar e tem alguma coisa a fazer. Les bénéfices de l'équipement, il ne peut pas.
On a aussi des obligations. Des fois, on veut sortir du campement pour aller travailler à l'extérieur, en ville par exemple, mais on doit travailler d'abord en priorité pour le campement.
Ah. Et puis, ce n'est pas confortable quand même, il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas d'électricité, enfin, ce n'est pas le confort quoi.
Até agora, só energia mesmo só no colégio, porque é a moto.
Jusqu'à présent, on a réussi seulement à mettre l'électricité dans l'école. Parce qu'il y a un moteur.
Ouais. Et entre les gens, ça se passe bien ou il y a des tensions?
Non, on n'a pas
non,
de tensions.
Non, ça c'est cool.
Quand il fait assim, coisas desagradáveis para o acampamento, il bota para fora.
Et quand il y a des gens qui font des choses désagréables pour le campement, qu'on n'accepte pas, on les expulse.
Ouais, c'est ça. Mais comment on les expulse? Il y a des jugements, il y a des conseils?
A gente reúne a coordenação do acampamento. Aí vai discutir o que pode fazer com ele.
Alors on réunit toute la coordination du campement et on discute avec lui de qu'est-ce qu'on va faire.
Aí se eles assim, comparação se ele fizer uma vez, a gente reúne com ele e dá uns conselhos. Aí se ele continuar, a gente bota para fora.
Voilà, s'il fait ça une seule fois, on se réunit, on parle avec lui, il y a pas de problème. Mais si après il recommence, à ce moment-là, on l'appelle. Et puis on l'expulse.
C'est arrivé ça?
Oui.
À cause de brigues.
Oui, c'était arrivé cachaça. Parce que, surtout à cause de l'alcool.
Ah, cachaça. T'en vends pas là dans ton épicerie de la cachaça?
Cachaça, qui?
Non.
Ça, l'alcool, c'est interdit?
Ah, qui est?
Oui, c'est interdit.
Qu'est-ce qui manque le plus comme produit dans le campement?
Bon, t'as beaucoup de types de choses ici. Já tem muito já que procura que já tem aqui, mas poucos que não tem.
Il y a très peu de choses finalement qu'on n'a pas. On n'a pas grand chose, mais on a un petit peu de tout.
Un petit peu de tout. Ouais, de tout un peu. Dis donc, on entend. Hein, le Brésil est un pays jeune. Hein. Sur 180 millions d'habitants, 50% ont moins de 20 ans. Et ça s'entend.
Là, la pluie, elle arrive. Là, il va falloir qu'on se protège. On l'entend. Elle arrive là. Oui, oui. On l'entend. Elle arrive. Va se protéger là. Ah, on descend. Il vaut mieux qu'on descende. Elle est très, très forte.
Vite, vite, vite.
C'est vrai que non seulement là, on l'entend arriver, mais on la sent à l'odeur, la pluie qui arrive. On descend vers les baraques. La chaleur descend un petit peu. Superbe, hein, c'est un peu idyllique. On est dans les rêves utopiques des gens du
19e, Thoreau, Fourier, enfin tous ces rêves, même Rousseau, tout ça, la vie dans la nature. La pluie arrive sur les chaumes.
Eh, non, c'est qu'elle chauve.
Está, e a chuva, como é a chuva lá?
Não é assim.
Lá não chove, não?
Ah. Chove, mas não é assim.
Como é? Oh, c'est des gouttes énormes, c'est presque de la grêle qui tombe.
E a chuva é tropical.
Sent bon la terre mouillée, puis il y a encore des petites odeurs de fumée, de fumée de bois comme ça. Ah, il y a des fuites. Des petites fuites.
La vengeance de la pluie.
C'est peu de dire que la nature est violente. On est en Amazonie. La forêt a été entièrement rasée dans cette région, brûlée. De l'herbe, des herbages ont été semés par avion pour fabriquer du soja et du bétail pour l'exportation, des affaires complètement aberrantes dues au fait que le Brésil est un des pays les plus endettés du monde, c'est-à-dire sous suggestion, on peut dire, des grandes instances comme le FMI et la Banque mondiale. Il y a une liberté politique extrêmement réduite pour cette raison-là. Les histoires de combat pour la terre au Brésil remontent à très longtemps, mais enfin on peut les faire commencer à la colonisation. Les Portugais ont chassé les indigènes de leurs terres et plus tard les esclaves ont lutté pour la liberté, bien entendu pour le droit à la terre. Il y a eu c'est une constante dans l'histoire de ce pays que des gens qui luttent pour la paix, pour la terre et pour la liberté, en s'organisant comme ils peuvent. Et dans notre siècle, ça a continué jusqu'à la dictature qui est arrivée en 1964. Et là, les mouvements de sans-terre ont été réprimés, les grands propriétaires ont été favorisés, il y a encore eu de plus grands regroupements de terres. Et là, pendant la durée de la dictature, l'Église brésilienne a eu une attitude particulière d'aider ces mouvements populaires, de les héberger. Et c'est en fait la commission pastorale de la terre qui est à la base de ce mouvement des sans-terres. La commission pastorale de la terre continue son action, une action très courageuse. Et donc ce mouvement des sans-terres se bat aujourd'hui avec le succès qu'on sait et la popularité aussi, parce que c'est un mouvement qui est très populaire au Brésil. Alors, c'est un drôle de mélange, hein, c'est un drôle de mélange, ce mouvement, ce passé, et puis cette présence aussi des chrétiens, des catholiques, de la théologie de la libération, un mélange qui nous étonne et que nous explique Stédil, qui est le porte-parole du mouvement des sans-terres.
Nous avons l'habitude de dire que notre lutte
est une lutte permanente contre trois cercles.
Est une lutte permanente contre trois murs.
Le premier est le mur du latifundio.
Le premier mur, c'est celui du latifundio.
C'est-à-dire des propriétaires terriens.
Qui talvez seja le plus facile de derrubar.
Qui finalement est peut-être le plus facile à détruire.
Le second est le mur du capital.
Le second est le mur du capital.
Qui empêche les personnes de travailler.
Qui empêche les gens de pouvoir travailler.
Et vivre de leur propre
effort. Et de pouvoir vivre de leur propre effort.
Et le troisième mur est le mur de l'ignorance.
Et le troisième mur, c'est le mur de l'ignorance.
Et pour ça que nous, au mouvement, nous esforçons tant pour démocratiser l'éducation.
Et c'est pour cela que nous, dans le mouvement, nous nous efforçons autant pour démocratiser l'éducation.
Et nous procurons éduquer le peuple pour qu'il s'organise et lutte tous les jours.
Et nous cherchons toujours à éduquer le peuple pour qu'il s'organise et puisse lutter tous les jours
contre ces trois murs.
Contre ces trois murs.
Là, on entend de temps en temps une cloche qui sonne. Ici, on est dans un couvent. Il y a des prêtres, il y a des religieuses. Parle-moi un petit peu de l'élément religieux et peut-être plus largement de la théologie de la libération aujourd'hui, de la place de la théologie de la libération dans le mouvement des Sans-Terre.
Aqui no Brasil, nós dizemos que 110% dos camponeses são cristãos.
Dizem que 110% dos paysans são cristãos.
De maneira que há uma presença religiosa permanente na cultura do camponês.
Il y a donc une présence religieuse permanente dans la culture du paysan.
E a teologia da libertação deu uma contribuição enorme.
Et la théologie de la libération est une contribution importante.
Sobretudo durante a ditadura militar.
Surtout pendant la dictature militaire.
Antes, a igreja conservadora dizia.
Auparavant, l'église conservatrice disait.
Vocês não precisam lutar por terra, porque terão o céu.
De lutter pour la terre puisque vous aurez le ciel.
Depois da teologia da libertação.
Après la théologie de la libération.
A igreja começou a dizer.
L'église a commencé à dire.
Já que temos o céu garantido.
Puisque nous avons le ciel garanti.
Por que não lutar pela terra?
Pourquoi ne pas lutter pour la terre?
Isso foi o que gerou uma nova consciência no meio dos camponeses.
Une nouvelle conscience au niveau des paysans.
E a segunda contribuição importante da teologia.
La deuxième contribution très importante de la théologie de la libération.
Está expressa na seguinte expressão.
On peut la retrouver dans l'expression suivante.
Deus só ajuda quem se organiza.
Dieu aide seulement celui qui s'organise.
E nós aproveitamos essa concepção de mundo.
Voulons profiter de cette conception du monde.
Para organizar os camponeses
à lutar. Pour organiser les paysans à lutter.
Por outro lado, dentro do movimento.
D'un autre côté, à l'intérieur même du mouvement.
Nós desenvolvemos uma espécie de mística.
Nous avons développé une sorte de mystique.
La mystique du MST.
Para alimentar o sonho da mudança.
Afin de pouvoir alimenter le rêve de changement.
E novos valores da sociedade.
De pouvoir établir des nouvelles valeurs de société.
O povo não aprende de discurso.
Le peuple n'apprend pas des discours.
O povo aprende fazendo práticas novas.
Le peuple apprend uniquement en faisant et en pratiquant.
E essa visão de utilizar a mística como forma de unidade.
Et cette vision de pouvoir utiliser la mystique comme une forme d'union.
Nós aprendemos com a igreja.
Nous l'avons appris avec l'église.
No dia que fizermos a revolução no Brasil.
Le jour où nous ferons la révolution au Brésil
sera conjuntamente com uma partida de futebol.
Ce sera en même temps qu'un match de foot.
E um baile de carnaval.
Et avec un bal de carnaval.
Passa pra lá, vaca velha! Ui, bicha de gorda! Vai lá! Ai, ai, ai! Uma mele. Nordestino, vaqueiro chamando gado. Uma meleiro perdido, embuzeiro virado. De repente, nordestino, vaqueiro chamando gado. Uma perneira, um gibão, um cavalo bem tratado. Uma corrida de morão. Uma meleiro perdido, embuzeiro virado. De repente, nordestino, vaqueiro chamando gado. Numa beira de lagoa, um touro velho espantado. Um apoio de vaqueiro na sombra do juazeiro. Os sonhos do meu passado.
Ça, c'était en 2001, donc il y a 13 ans, avant que Lula et le Parti des travailleurs n'arrivent au pouvoir, avec des promesses, entre autres des promesses concernant la réforme agraire, qui est un des enjeux fondamentaux au Brésil. Si, en effet, aujourd'hui, les plus pauvres sont sortis de la pauvreté, les riches se sont encore plus
enrichi. Le Brésil, il faut le rappeler, est le pays qui a une des plus fortes injustices sociales au monde. La lutte contre cette injustice passe évidemment par la réforme agraire. Répétons-le, 1% des Brésiliens possèdent plus de 50% des terres cultivables. Alors que fait, que dit le mouvement des sans-terres aujourd'hui? Ario rencontre avec Joaquim Pinheiro du mouvement des sans-terres. Moi, je suis venu ici en 1992, je suis revenu en 2001, j'ai fait des reportages à São Paulo et dans le Pará avec le MST. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, depuis que Lula est venu au pouvoir? Est-ce que la situation s'est améliorée par rapport à vos luttes, à vous?
Na nossa avaliação, o governo Lula criou algumas possibilidades para... Primeiro, a estabilização da economia, o crescimento da economia, as melhoras do ponto de vista social.
Depuis l'élection de Lula, selon notre opinion, le pays a obtenu plusieurs choses, une amélioration globale de l'économie, une amélioration du niveau social de la population.
Mas não conseguiu resolver alguns problemas estruturais.
Mais il n'a pas réussi à résoudre certains problèmes structurels.
Como, por exemplo, a reforma agrária.
Como, por exemplo, a reforma agrária.
Uma reforma na educação.
Uma reforma de educação.
Uma reforma no setor de saúde.
Uma reforma no setor da saúde.
Uma reforma política.
Uma reforma política.
Então, essas reformas estruturais, elas estão por ser feitas. Então,
todas essas reformas estruturais não toujours pas été faites.
Concretement, par rapport à la lutte du mouvement des sans-terres, qui consiste à permettre à des habitants de reprendre des terres. Quel est votre bilan?
O resultado é que grande parte da nossa base não conquistou terra nesse período governo Lula.
Une grande partie de notre base n'a pas obtenu les terres pendant le gouvernement de Lula.
Porque grande parte da nossa base também continuam na luta por conquista de terras.
Et donc une grande partie de cette base continue dans cette lutte pour obtenir des terres.
Umas 300 mil famílias que são assentadas, que já conquistaram terras.
300 000 familles ont obtenu, elles, des terres.
Ah, en 30 ans d'existence du MST, de 1984 à 2014, 300 000 familles ont, grâce à la lutte du MST, ont obtenu des terres.
E essas famílias que conquistaram a terra, com o governo Lula, também houve melhoras, por exemplo, em programas para habitação, casas.
Ces 300 000 familles qui ont obtenu la terre, avec le gouvernement de Lula, elles ont connu en plus d'autres améliorations de leur niveau de vie, par exemple au niveau du logement.
Tudo isso foi uma conquista porque houve uma pressão muito grande por parte do MST, pressionando o governo para que pudesse haver essas conquistas.
Tout ça, ça s'est obtenu grâce à une pression constante du MST envers le gouvernement pour obtenir donc ces aides, améliorer cette situation.
Mais pour autant, dis-tu, la réforme agraire n'a toujours pas eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a cette inégalité monstrueuse au niveau de la répartition des terres au Brésil.
Exatamente. A nossa crítica e a luta continua. Porque isso são políticas pontuais.
Exatamente, oui. E c'est pour ça que notre lutte continue, parce que ça, c'est des politiques ponctuelles.
São distribuição de algumas assentamentos.
Ce sont des distributions de terres, de petits lots de terres.
Mas não é um processo de reforma agrária ampla, aonde pudesse haver uma democratização da estrutura fundiária no país.
Mas não é um processo de reforma agrária completo, amplo, onde haveria realmente uma democratização do acesso à terra.
O Brasil segue sendo ainda um país com um dos maiores níveis de desigualdade do ponto de vista da distribuição de terra.
O Brasil continua sendo um dos países mais inegalitários ao nível da distribuição da terra.
E isso o governo Lula não atacou, nem o governo Lula, nem o governo Dilma.
E nem o governo Lula, nem o governo da presidente Dilma não tocou esse caso. Eles não fizeram nada.
AFP.
Depuis plus de 40 jours, ces centaines de travailleurs ruraux campent et manifestent quotidiennement dans la ville amazonienne de Marabá.
29 juin 2011.
Trois fédérations agricoles se sont unies pour réclamer au gouvernement la distribution de terres cultivables, la création d'infrastructures et plus de sécurité.
Il manque des routes, des crédits, des infrastructures. Comment peut-on cultiver des produits de la terre sans route pour les transporter?
Une mobilisation initiée par les sans-terre, un mouvement qui milite pour une réforme agraire au Brésil. Qualifiés de terroristes par une partie de la presse brésilienne, les sans-terre organisent régulièrement des occupations massives des terrains de grands propriétaires. Au Brésil, 1% des propriétaires terriens possèdent 46% des terres cultivables, dont la majorité n'est pas exploitée.
Le MST, le mouvement des sans-terre, considère qu'en ce moment, la coupe du monde, ici au Brésil, elle n'est pas favorable aux luttes sociales. Ce n'est pas le moment. Tout le monde a la tête dans le ballon. Est-ce que tu penses que les luttes vont reprendre après? Ou bien est-ce que ça va assommer, ça va inhiber les luttes?
Pelo menos da nossa parte, não.
De notre côté, non, on va pas, du MST, on va pas freiner.
Nós achamos que precisamos ter uma pausa para esse processo.
On pense qu'il faut faire une pause là pendant la coupe.
Agora, nós vamos ter um processo de eleição em outubro.
Mais il va commencer donc le processus électoral en octobre.
Et oui, après, c'est les élections présidentielles.
E esse é o momento importante para reativar o processo de lutas.
E lá, c'est vraiment un moment important pour réactiver ce processus de lutte.
Eu acho que se o Brasil, a própria organização da Copa, se tudo sair sem nenhum problema até o final do Mundial, o governo da presidente Dilma vai ter, de certa forma, uma posição boa de avaliação nesse processo.
Je pense que si la coupe se passe bien, si on n'a aucun problème d'organisation jusqu'à la fin, effectivement, ça va être plutôt positif pour le gouvernement de la présidente.
Isso é momentâneo, é um período de festa.
Mais ça c'est temporaire, c'est juste un moment de fête.
Mas no dia seguinte a população vai pegar o ônibus, o metrô, vai precisar dos postos de saúde, vai para a faculdade, vai para as escolas.
Mais bien sûr, le lendemain, la population va de nouveau prendre le métro, va avoir besoin de postes de santé, va aller à la faculté.
A vida vai continuar.
La vie va continuer.
E os problemas continuam.
Et les problèmes vont continuer aussi.
Por isso que é importante reativar o processo de luta e fazer essa aliança com a população brasileira.
Et c'est pour ça que c'est important de reprendre la lutte et de faire cette alliance avec la population brésilienne.
Et que la population apoie os processos de lutas.
Et que la population appuie ce processus de lutte.
Desculpe Neymar, mas nesta Copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez. Barreira eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões pra fazer Copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Parreira, eu vi, é você que tem razão.
Sim.
C'était La coupe est pleine, le quatrième volet d'un reportage de Daniel Mermet, Antoine Chao et Guy Vanctil. Traduction Anne Vigna et Maria do Fetal de Almeida. Merci à Joaquin Pinheiro et Mathilde Huro de Lina. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot et Arnaud Caillet, une émission réalisée par Lucie Acoun et Franck Aderer, préparée avec Jonathan Duong et c'est Stéphanie Fromentin qui attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Les personnes qui vont voir le ciel à moitié, je pense que c'est ça, hein. Là, ça commence tout de suite, on vous attend en grande salle. Pour les autres personnes, les personnes du soleil, du chaudron, de l'aquarium, c'est déjà fermé pour vous depuis longtemps. Pour les personnes qui sont allées voir Peer Gynt, le bar fermera dans 20 minutes et la dernière navette partira dans 20 minutes. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à ramener la vaisselle, merci beaucoup.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites ici?
Je suis le barman, mais je suis le remplaçant de Philippe Adrien, le directeur, vous voyez.
Vous faites le crieur.
Comment on dit, il y a un mot pour ça, mais... Et donc, non, sans plus, mais je gère tout le théâtre, c'est pas une blague.
Donc je vous laisse, alors.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Bonjour à tous et bienvenue au Théâtre de la Tempête, où une soirée est organisée pour les femmes détenues. Et cette soirée s'appelle Le Ciel à Moitié.
Bernard, juste une question. Pourquoi ça s'appelle Le Ciel à Moitié?
Il y a un bouquin qui est sorti aux États-Unis il y a longtemps qui s'appelait la moitié du ciel, qui était consacré aux femmes dans le monde et l'oppression. Et donc on cherchait un titre et celui qui est venu c'est Le Ciel à Moitié, puisque à travers ces barreaux on en voit un morceau mais pas vraiment. Ça fait une référence à cette population des femmes. Alors ça ne parlera pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas eu connaissance de ce livre qui est sans doute un peu oublié. Mais c'est poétique, c'est joli.
Donc ça commence là?
Maintenant, à l'instant.
Goûtez le gingembre, je vous assure.
Pardon?
Goûtez le gingembre de cette dame, c'est excellent.
Ah, oui. Ah, c'est génial.
Bonjour. C'est vous qui avez fait du gingembre?
Ah oui, c'est moi qui fais.
Elle est là tout le temps.
Et pourquoi vous êtes là?
Je suis là, je vends le gingembre dans toute la cartoucherie. J'étais au Théâtre du Soleil, chez Ariane Mousquine. Et là, je vends aussi à la Tempête, depuis des années.
D'accord.
Voilà.
C'est votre travail?
C'est mon travail. C'est mon travail.
Alors, qu'est-ce que vous faites à votre gingembre?
Le gingembre, la recette, elle est secrète. Hein?
Ah, vous ne pouvez pas me le dire?
Ma recette, elle est secrète. Ah, oui. Ah non. Ouais. Je peux vous faire goûter, mais je ne peux pas vous dire la recette.
D'accord, je veux bien goûter alors.
Merci.
C'est combien le verre?
C'est 2 euros le gobelet ou le verre, voilà.
Très bien.
Merci. Je suis très connue en plus.
Tenez.
Mama Fanta, si vous dites Mama Fanta partout, je suis connue.
Mama Fanta, spécialiste du gingembre.
Voilà, l'impératrice du gingembre.
L'impératrice du gingembre, pardon.
L'impératrice, voilà.
Et vous allez voir les spectacles ou vous faites que vendre du gingembre?
Je vends du gingembre, mais aujourd'hui, j'étais tellement fatiguée. Je vais voir le spectacle aussi. Hein.
D'accord.
Voilà, et quand je suis là, je vais aller voir le spectacle.
Et alors là, c'est une soirée sur les femmes détenues, ça vous intéresse?
Oui, ça m'intéresse, parce que les femmes en prison, c'est pas rigolo. On souhaitait à personne d'aller en prison. Voilà.
Vous n'y êtes jamais allé?
Jamais. J'espère que je ne vais pas y aller non plus.
Comment vous avez eu l'idée comme ça de vendre du gingembre dans les théâtres?
Ah bon, ça a commencé, c'est comme une conte des fées. Hein. Ça a commencé avec Ariane à l'église Saint-Bernard.
Ah oui?
Voilà, j'étais partie aider les sans-papiers depuis 1996. Ariane était là pour aider les sans-papiers. Alors on s'est connus. Elle a goûté le gingembre et elle m'a demandé d'aller faire une formation pour créer la petite entreprise. Et depuis, elle m'a donné un emplacement. Et je vends du gingembre avec les autres théâtres aussi, la Tempête, l'Épée de bois. Et l'aquarium, il y avait Chaudron et Caroline Carson. Et tout le monde m'appelle pour que je vende des gingembre.
Tous les théâtres qui sont dans le bois de Vincennes.
Voilà, je pars en tournée aussi avec Théâtre du Soleil.
Ah.
Voilà, au Brésil.
Vous faites partie de la troupe.
Voilà. Voilà. Et là, je vais à Montpellier aussi, tous les ans, à l'été. Je fais les estivales. Et là, des fois, je fais le festival des printemps des comédiens.
À Montpellier.
À Montpellier, tous les ans à l'été.
Et vous avez envie de monter sur scène parfois ?
Oui, je suis comédienne, hein, j'ai déjà monté sur scène.
Mais vous ne me dites pas que vous êtes comédienne, vous me dites que je suis vendeuse de gingembre.
Oui, non, mais oui, maintenant je vends le gingembre parce que pour moi, c'est un rôle aussi qu'Ariane m'a donné, chef d'entreprise. D'accord. Voilà, et c'est que mon souhait, c'est de faire la mise en bouteille.
Ah, et ça, c'est pas encore fait.
C'est pas encore fait, je cherche quelqu'un qui peut se jeter à l'eau pour m'aider. Et parce que mes produits, là, c'est génial. Voilà, les produits, on dit, non, mes produits sont géniaux. Bon, ça mérite que tout le monde goûte, voilà.
Et alors, votre gingembre, vous l'achetez où ?
Ben, je l'achète à Rungis.
Vous allez...
Voilà, où c'est le chinois. Voilà, je fais des vrais gingembres, j'épluche, je fais pas ni la poudre, ni avec le sirop. Voilà, je fais moi-même, je fabrique le gingembre.
Et l'hibiscus. L'hibiscus ?
Il y a fleur d'hibiscus aussi qui vient du Mali.
Est-ce que vous venez du Mali ?
Oui, je suis malienne, je suis en France depuis 32 ans. Voilà.
Voilà. Alors, Mama Fanta, je vous remercie beaucoup. Impératrice du gingembre.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve lundi.
Un temps de pochon a été réalisé par Véronique Barnet.
France Inter, partenaire du festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair, les 3, 4, 5, 6 juillet 2014. Garden Party Pop Rock, le festival Beauregard ou la vie de château au cœur de la basse Normandie. Au programme de cette 6e édition, 2 scènes, 33 artistes pour nous faire passer des moments uniques. Stromae, Pixies, Agnès Obel, Damon Albarn, Blondie, I Am, Chaka Ponk, Foster the People, Portiched, Fauve et bien d'autres. Retrouvez le festival Beauregard dans les programmes de France Inter et sur franceinter.fr. Stop.
Venez participer à la finale du concours international de chef d'orchestre Evgeny Svetlanov.
Et votez pour votre coup de cœur.
À vivre avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Le samedi 28 juin à 14h et 18h30, salle Pleyel.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Tous nos concerts au 01 56 45 16
et sur radiofrance.fr/concerts.
À suivre, Frédéric Lodéon, très bonne journée à l'écoute de France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
Les syndicats des grands magasins parisiens dénoncent cet après-midi l'annonce de Laurent Fabius aux assises du tourisme à Paris, dont il a la charge maintenant au Quai d'Orsay. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré ce midi qu'il souhaitait élargir l'ouverture des grands magasins le dimanche dans les zones touristiques très fréquentées à Paris, comme le boulevard Haussmann. Tous les syndicats des Galeries Lafayette y sont opposés. Il n'y a aucun bénéfice économique, selon Céline Carlin de la CGT. Même discours au printemps, la clientèle ne vient ni le soir ni le dimanche et les riverains sont contre, selon Bernard Demarque de la CGT. Pour Laurent Fabius, au contraire, dans ces zones, les touristes sont apporteurs de devises. À l'Assemblée nationale, les députés continuent l'examen de la réforme ferroviaire. Ils ont adopté une règle d'or pour freiner la dérive de l'endettement du futur gestionnaire d'infrastructures, SNCF Réseau. L'État et les collectivités territoriales devront financer le développement de nouvelles lignes qu'ils souhaiteraient. Et SNCF Réseau aura la charge de la maintenance. La fin de l'examen du texte est prévue aujourd'hui. Le vote solennel pour mardi. D'ici là, eh bien, le mouvement de grève continue demain, mais pas partout en France. Certains grévistes, comme à Toulouse, ont décidé de reprendre le travail. Mais à Paris, Marseille, Lyon ou encore Grenoble, la grève pour demain était reconduite pour les cheminots pour le 10e jour. Aujourd'hui, un cheminot sur 10 était en grève, en majorité des conducteurs et des contrôleurs, d'où le trafic toujours perturbé. Va-t-on vers la fin du mouvement des intermittents ? On verra comment ils réagiront après l'intervention de Manuel Valls ce soir à 18h. Le chef du gouvernement a prévu de s'exprimer sur ce dossier juste après en fait avoir reçu les propositions de Jean-Patrick Gille. Jean-Patrick Gille, député socialiste qui fait office de médiateur dans ce dossier. Il pourrait y avoir des mesures immédiates comme l'activation du fonds de soutien pour les intermittents les plus précaires. Ce fonds existe depuis la précédente crise de 2003 et à terme, Manuel Valls pourrait aussi annoncer une refonte du système des intermittents du spectacle. Les intermittents dénoncent le nouvel accord sur l'indemnisation des chômeurs qui doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Martin Hirsch a présenté aujourd'hui son projet de réorganisation pour l'Hôtel Dieu. Le directeur général des hôpitaux parisiens propose que l'hôpital situé en plein cœur de la capitale reçoive en majorité des patients ambulatoires, c'est-à-dire avec sortie le jour même. Martin Hirsch a également annoncé que le projet devait inclure la création de logements et de services sociaux. À l'étranger, Kiev signera en fin de semaine prochaine le volet économique de l'accord d'association avec l'Union européenne. C'est ce même accord qui était sur la table en novembre dernier, mais que Viktor Yanukovych, le président de l'époque, avait refusé de signer au dernier moment sous la pression de Moscou, ce qui avait déclenché la crise qui a conduit à sa chute en mars dernier et au rattachement de la Crimée à la Russie. Enfin, une adolescente de 17 ans a été hospitalisée dans un état critique à Montpellier. Elle a été blessée par balle à la tête la nuit dernière à Trèbes dans l'Aube. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle pourrait avoir été la victime collatérale d'un différend entre son petit ami et un jeune homme de 20 ans. Le jeune homme en question qui a tiré a été placé en garde à vue. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
L'heure des rêveurs.
Paolo Rumiz est un écrivain voyageur italien.
Zoé Varier.
Cet hiver, il a fait le tour des fronts de la guerre de 14-18.
Quand il trouve un signe très très faible au fond d'une vallée, il y a quelque chose, tu le vois, tu le regardes, tu réfléchis et tu dis, mon Dieu, c'est la guerre.
Quelle mémoire avons-nous de 14-18 ? Paolo Rumiz a cherché les traces de cette guerre dans le paysage.
Il y a une grande pitié dans la nature, mais aussi une grande indifférence. Elle efface tout. Dans les champs, l'endive de la Somme, elle est pleine des ossements.
L'heure des rêveurs, à suivre ce vendredi sur France Inter, à partir de 20h. France Inter.
La voix est libre.
Allez Frédéric, c'est à vous.
Merci Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui, voilà, émission de fête pour les flâneries musicales de Reims, dont c'est le 25e anniversaire. Je reçois Jean-Philippe Collard. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Frédéric.
Célèbre pianiste qu'on ne présente plus, mais quand même, on est toujours ravi de recevoir et d'écouter. Laurent Petit-Girard, alors je ne sais pas comment vous déterminez, mais d'abord bonjour.
Bonjour Frédéric.
Et alors vous êtes de nouveau président de la SACEM, parce que c'est une position tournante, c'est ça?
Oui, c'est ça, depuis hier, vous voyez, voilà. C'est tout frais, pour préparer la fête de la musique où on va recevoir tout le monde demain.
Ah bon, alors, donc c'est une position tournante puisque vous êtes président 3 ans et puis on vous laisse en repos, enfin uniquement de cette activité-là, parce que vous êtes aussi compositeur, chef d'orchestre, vous jouez très bien du piano et tout ça. Enfin voilà, et qu'est-ce qu'on peut dire, vous êtes de l'Institut aussi, parce que vous êtes au siège de Marcel Landowski, grand directeur de la musique, hein, vous avez été reçu il y a un bon moment déjà, je vois 2001, c'est vrai, tout ce temps déjà.
Oui, vous sentez vous ce étiez... parfum d'immortalité.
Ah, oui, mais vous étiez très 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 jeune, c'est incroyable. Et puis président de l'Académie des Beaux-Arts, le 6 janvier 2011 aussi, tout ça. Donc je vais vous appeler monsieur les présidents, c'est
ça? Non, quelle horreur. C'est bien... non. C'est fini l'Académie des Beaux-Arts, c'était qu'un an, ça va.
Bon, c'était qu'un an, ça va, on enlève ça. Et puis compositeur, je l'ai dit, voici, mesdames et messieurs, en grande première sur France Inter, la sonnerie des flâneries, les flâneries musicales de Reims par Laurent Petit-Girard. Sonnerie des flâneries, c'est un peu le début des Jeux Olympiques aussi. Il y a
C'est pour rappeler les gens en concert, c'était une commande du maestro en face, donc
Jean-Philippe Collard,
j'ai obéi pour 6 trompettes, oui. Et c'était les trompettistes qui travaillent toujours avec nous, avec Colonne, qui l'ont enregistré.
Bon, Avignon aussi, à Avignon il y a une belle sonnerie pour appeler les gens, c'est tout à fait formidable, et puis c'est original surtout. Donc Laurent Petit-Girard, maintenant Jean-Philippe Collard, donc vous êtes le directeur artistique de ces flâneries musicales de Reims, ce sont les 25e déjà.
Et oui, 25 années de bons et loyaux services en faveur
graveur de la musique pour une manifestation qui ne ressemble à aucune autre, comme son nom l'indique, puisque nous allons de lieu en lieu, et au total 38 cette année, pour donner en tout 57 concerts en 3 semaines.
Ouais, c'est énorme. Et puis il y a des lieux absolument fameux, et puis il y a le manège de Reims, et le théâtre du Chemin Vert, le Carré Blanc à Tinqueux, le théâtre à l'Affiche, l'église Saint-Thomas, il y a des endroits, le Palais du Thau, la Salle Basse par exemple, la Comédie de Reims, on ne va pas tout citer, mais enfin c'est énorme, le château de Courcelles, à Saint-Brice-Courcelles, le Champagne Pommerie accueille aussi la Salle Pompadour à Reims, le Champagne Ruinard, on ne va pas les rendre jaloux, entre eux, la filature à Bazan cours, hein. Vous prenez celle de Mulhouse, mais il y a aussi celle-là, bon, etc., etc., on va y venir, et puis on va entendre tout de suite votre talent bien connu, Jean-Philippe Collard, mais on ne s'en lasse pas, dans la 11e valse en sol bémol majeur de Frédéric Chopin.